aussi.
Ah, chouette, chouette.
A palavra está aberta. Se quem quiser fazer pergunta, comentário, crítica ou observação, pode falar em português, a gente traduz. Não precisa nem traduzir, porque ele entende tudo que nós dizemos, fazendo de conta que não entende.
Semi, plusieurs fois, tu as dit des choses que les cinéastes ont dit, ou l'écrivain ont dit, etc. Et je ne sais pas si j'ai bien compris, mais parfois, il me semble que tu es d'accord avec eux. Par exemple...
Je suis d'accord avec eux.
Oui,
oui, toujours.
Par exemple, comme tu disais à propos de la mer, que c'est dans l'écriture.
Oui.
Comme théoricien, on ne peut pas dire ça, la mer n'est pas de l'écriture. Je ne sais pas si je me comprends.
C'est la mer filmée qui est de l'écriture, ce n'est pas la mer, la mer.
Ah oui, c'est l'image de la mer, oui. C'est l'image
ça,
de la mer.
Ça, je n'ai pas compris.
Oui, ma question était la même. C'est, finalement, quelle est la définition d'écriture?
Voilà.
Ah, évidemment. ça, mais... Ah, ça, je n'ai pas la réponse. Il y a, et c'est plein de paradoxes. Ce sont des manières de dire très paradoxales. Elle dit, par exemple, mais l'écrit n'est pas bavard. C'est la parole qui est bavarde. Hein. Et alors, elle dit, la parole écrite. Hein. La plupart des romans ne sont pas faits d'écriture. Ils sont faits de paroles écrites. Voyez ? Donc, encore une fois, on voit bien que l'écriture, c'est autre chose que ce qu'on peut, encore une fois, que l'on pourrait... C'est un peu sémiologique, justement. C'est-à-dire, c'est pas sans contenu. Hein. Une écriture, c'est pas juste, encore une fois, quelque chose de substantiel ou qui relève strictement de l'expression. Ça n'est pas sans contenu, sans intention. Et donc, et à partir de là, alors oui, pourquoi pas. Mais ça n'est pas si étonnant, parce que par exemple chez Roland Barthes, on a d'usages du terme d'écriture à propos de la peinture, à propos de la musique. Et ce que Marguerite Duras fait, c'est prendre une position extrême. Mais en réalité, on pourrait très bien faire la chaîne qui rend cette position acceptable, en commençant par dire, ben oui, le peintre... Il a, par exemple, Miro, il a tout un système de formes qui ressemble à de l'écriture, parce que tout de même, chacune de ces formes représente un signe, quelque chose, et la combinaison dans le tableau, même s'il s'agit de quelque chose de tabulaire, a quelque chose qui ressemble à l'écriture, puisqu'il existe des écritures tabulaires. Pensons par exemple à l'Égyptien. L'Égyptien, hein, c'est quand même une écriture. Bon, donc, ce n'est pas celle que nous connaissons, mais tout de même, c'est bien de l'écriture. Alors, si nous disons ça pour les tableaux de Miro, nous pourrions le dire de la musique aussi, que la musique est écrite. Hein, la musique est écrite parce que réellement, il y a une partition. Mais s'il y a une partition, pourquoi pas que ce qu'on entend, c'est de l'écriture. Hein, ce n'est pas... parce que ce qui est écrit, c'est bien des notes. C'est bien des notes musicales. Alors donc, ce qu'on entend, c'est aussi écrit. Si c'est le cas, pourquoi pas la mer? Il suffit qu'on dise, qu'on pense, tu vois, de filmer la mer, qu'on le veuille, pour que la mer devienne 100% écrite. Il suffit de le vouloir entièrement. Je crois que c'est ça, ce qui se cache derrière ce terme d'écriture, surtout si on entend justement l'opposition écriture parole bavarde, parole écrite, en fait, l'écriture, c'est chargé d'intention, c'est chargé de sens. Hein? Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je veux dire, pour un théoricien, je suis bien d'accord que c'est un peu... Bon, tout ça pour ça, on pourrait dire. Hein? Mais, je veux dire, on pourrait... Pourquoi écriture? C'est évidemment parce qu'elle est une écrivain. On pourrait dire l'art ou la culture, enfin, pour... Il y a plein de termes qui seraient chargés de valeur, qui seraient la valeur elle-même. Mais c'est un peu c'est ce qu'elle disait tout au début. Elle disait, la lecture, qui est un phénomène très important, peut-être le plus important. Et pas le plus important de quelque chose, le plus important tout court. Donc en gros, c'est la valeur. Et à partir de là, bah oui, une mère, si c'est une œuvre d'art, assumée comme telle, si rien de cette mère... n'est dénié, Hein, c'est-à-dire le son, la durée, l'exacte couleur, le cadrage. Si tout est absolument voulu, alors c'est de l'écriture.
C'est le processus qui découle d'une intention. Tout processus qui découle d'une intention forte, c'est de l'écriture. Ce serait...
Selon elle. Mais elle a, changé de terme, elle ne tient pas nécessairement à ce terme. Elle a insisté sur lecture, écriture, et puis à un moment donné, elle va parler de fiction. Elle va dire que c'est ce qui importe, c'est la fiction. Et ça, on le comprend bien, justement, dans cette histoire de l'amant. Mm-hmm. Hein, elle est portée par la fiction. Hein, ce qu'elle, le texte n'est qu'un démarrage. Elle commence à lire l'amant, le texte qu'elle a écrit, et puis tout à coup, ce qui est écrit revit en elle à un tel point qu'elle peut le dire, elle est en phase totale, et ça, pourtant, c'est la fiction. C'est son imaginaire, on peut le dire comme ça. Hein, c'est pas... Il y a moyen, évidemment, de rabattre les choses. Mais moi, c'est en ce sens-là que je suis totalement d'accord avec eux. Je suis plutôt pour prendre au sérieux, hein, pour dire oui, ils ont raison d'élever les valeurs. Nathalie.
Ma question est sur le syncrétisme qui existe dans le cinéma et qui n'existe pas dans les littératures, les romans, quelque chose de culture de ce type. Comment se passe la musique dans ce type d'adaptation si la musique n'existe pas dans la littérature, mais dans l'adaptation, dans un film, elle existe et existe de beaucoup de manières. Donc, comment un théoricien pouvait parler sur la musique dans cette situation?
Donc, pas la musique qu'on entend dans les films, mais une musique intérieure, c'est ça?
Non, la musique du film.
La musique du film.
Oui.
Mais...
Excusez-moi, est-ce que je peux maintenant poser une question à propos de ta question?
Oui.
Avant la réponse de la personne interrogée. Ce qui ne se fait pas. Parce que, est-ce que tu... Si je lis bien ce que tu penses, c'est-à-dire la musique intérieure.
Non, justement pas. Non. Pas la musique intérieure.
Non, la musique intérieure dans la tête de Nathalie.
Ah, ok.
Eh bien, si ma télépathie est bonne, tu pensais à une musique pleine d'expression,
oui.
Par opposition à une musique dite sur le plan du contenu d'un roman, par exemple.
Oui.
Parce que le plan du contenu du roman peut évoquer des musiques.
Ok, mais maintenant.
Mais ça, c'est pas de la musique, c'est pas la musique qu'on entend dans un film.
Oui.
C'est de cette différence que tu parlais.
Cette différence, et dans le roman, la musique n'existe pas, et dans le film, il y a la musique. Les cinéastes utilisent la musique.
Bien sûr, sur le plan de l'expression,
oui,
du
oui,
film,
oui.
On entend la musique.
Oui, on entend la musique.
Bon. Bien, je vais te répondre d'une manière un peu provocatrice, donc, hein, mais ça, c'est pour. Bien, c'est que ce qu'il faut faire, enfin, non, pas forcément provocatrice, ce qu'il faut faire de la musique, c'est de se rendre compte qu'on ne fait pas que l'écouter. Que la musique, donc, et encore une fois, donc, son plan d'expression n'est pas clair dans la musique, au cinéma. La musique, elle s'écoute au cinéma, mais aussi elle se voit, mais aussi elle se pense, mais aussi elle se raconte, elle se fait dans le corps du spectateur, hein, on ne fait pas que l'écouter, on la renvoie, on la redit, c'est tout ça la musique. Et donc, encore une fois, c'est une manière de dire que la musique n'est pas un plan d'expression en ce sens-là. Elle se déploie sur plusieurs plans d'expression possibles. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. Et je crois que c'est ça, en tout cas, que les cinéastes essaient de nous dire. que les artistes essaient de nous dire. Ils essaient de nous dire que lorsqu'il y a un risque que l'analyse écrase toutes ces pratiques, toutes les pratiques de la musique, et en plus dans le cas du cinéma, d'une œuvre syncrétique, les pratiques de combinaison, d'association, d'accompagnement de la voix, de l'image et de la musique, donc toute une série de pratiques qui sont convergentes, mais qui aussi qui multiplient, qui diffractent ce qu'est la musique. La musique n'est pas juste ce qu'on entend par l'oreille. C'est aussi, parce que précisément c'est du cinéma, c'est aussi ce qu'on voit.
Donc la musique dans le cinéma, dans une adaptation, est une choix du cinéaste.
Ah, c'est
un libre choix.
De l'utiliser. Oui, mais encore une fois, ce qui ma réponse, c'est n'objectivons pas la musique comme un texte, mais tâchons de rendre compte du rôle, de la fonction de la musique, donc de ce qu'est la musique sous forme de pratique et de dispositif dans lequel la musique est prise, parce que c'est pas des pratiques juste subjectives, c'est aussi le film, c'est un dispositif médiatique, et c'est un dispositif médiatique dans lequel la musique effectivement joue pas une fonction mais des fonctions. Donc voilà, on perd beaucoup, on écrase énormément de choses en considérant la musique comme quelque chose qu'on va pouvoir mettre à distance de soi et des pratiques, à l'objectiver comme une partie du film qu'on pourrait analyser séparément de l'image, séparément du scénario.
Je suis totalement d'accord. Dans mon travail, j'ai parlé quelque chose de ça. Mais comme on parle maintenant sur l'adaptation de la chose, je pense que c'est vraiment que dans la littérature, la musique n'existe pas de la même manière.
Dans la littérature sur le cinéma ou... Ah non, tu veux dire dans la littérature, ah oui, c'est ça. Oui. Ben non, elle n'existe pas de la même manière, c'est vrai. Mais en même temps, d'une part, je dirais que... Tu vois, les œuvres littéraires, à mon avis, sont des œuvres syncrétiques, que l'écriture est syncrétique, parce que c'est à la fois du verbal, mais aussi du visuel, rien à faire, et dans le visuel, c'est encore plein de choses, c'est à la fois du tabulaire, c'est du linéaire, enfin, donc c'est plein de syncrétisme, c'est déjà plein de systèmes que le système de l'écriture. Et la musique, bah, peut-être qu'elle intervient, peut-être que c'est une manière plus difficile d'interroger une œuvre littéraire qu'une œuvre de cinéma, mais néanmoins, il y a quelque chose de musical dans une œuvre littéraire, rien à faire, par le phénomène de la lecture, au moins par cela. Alors, on va dire autre chose. C'est tout.
J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez à propos de la substance qu'est-ce que vous pensez sur le concept de iconicité de Jean-François Gaudron qui pense la substance toujours liée à une image qui peut être visuelle comme dans une peinture, une sculpture, mais cette image peut être aussi une image médiatrice, comme dans la littérature ou dans la pensée philosophique.
C'est ça.
Vous pensez que ça marche, ou pensez toujours dans un concept d'image lié à substance qui permet d'approcher ou rassembler toutes les matières ou substances différentes?
Mais oui, on peut le faire. Je crois qu'il le fait. Il a, à cet égard, il a généralisé, en même temps que modifié, des propositions qui sont déjà celles de Peirce sur l'image. Hein, sur l'image, sur l'icône, sur le diagramme. Peirce avait déjà dégagé l'image de la manière dont elle se manifeste selon le sens commun. Et effectivement, chez Bordron, il y a l'idée que l'image, mais c'est très peircien, je crois, chez Bordron à cet égard, est une étape, est un mode d'existence des objets. Hein, c'est un mode d'existence des objets. Il y a un moment iconique dans l'objet, mais il y a aussi des moments symboliques, des moments indiciels, c'est-à-dire la chaise, il a bien fallu qu'on la fasse. Hein, et donc, il y a de l'indiciaire dans la chaise, dans le sens où elle a été produite et assemblée, etc. Il y a évidemment un moment symbolique qui est la fonction, mais elle a un moment iconique, son iconicité, c'est effectivement lié à une gestalt, hein, donc une forme visible, et donc... On peut faire cela, et c'est sans doute une manière très, pour l'étude des images traditionnelles, c'est certainement une manière très justement très régénératrice que de penser l'image sous la forme de l'iconicité, d'essayer de, c'est un peu aussi ce que je fais au fond, je me rends compte, donc d'essayer de, enfin ce que je fais, d'essayer d'extirper quelque chose d'antérieur ou de plus profond que l'image telle qu'elle est. Mais, en même temps, il ne faut pas, c'est pour ça que moi j'étais dans les deux temps, il ne faut pas que cette recherche d'une structure profonde, de cette iconicité, néglige les dispositifs médiatiques, la différence, la variété des dispositifs. C'est-à-dire, encore une fois, que si on cherche, après, il faut quand même pouvoir rendre compte des rapports entre divers types d'œuvres, des œuvres dont on va dire que certaines sont des images au sens commun et d'autres que ce sont des textes, et que même s'il y a des moments iconiques dans les deux, donc il y a cette base commune à partir de laquelle on fait la comparaison, il faut aussi rendre compte des formes de manifestation de des dispositifs médiatiques dans lesquels cette iconicité va se réaliser. Voilà. Mais on ne... Et donc, encore une fois, voilà, je pense que la question de Bordron, c'est une première étape. Ça permet de poser la question, mais après, il faut la poser. Hein? C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller jusqu'aux structures superficielles, quoi, à la surface des choses. Merci, Eliane. C'est bien. C'est bien, Eliane. Je n'avais pas pensé à Bordron, mais je vais relire parce que je crois qu'en effet, c'est une réflexion sémiotique très importante. Et en effet, ce que je vous ai proposé, finalement, n'est pas très sémiotique. Hein, j'en suis encore dans une préconception sémiotique.
Vocês têm outras perguntas ou alguma outra coisa que gostaria de falar? Então, nós já ultrapassamos o nosso horário amplamente. Nós estamos cansando o nosso conferencista, além do que havia sido prometido ali. Então, Sylvie, em nome do grupo, eu quero te dizer um grande merci pela intervenção. Nós estamos num momento tão bom. Uma intervenção como essa do Semir, num momento tão ruim como esse que nós estamos vivendo, o Brasil indo embora pelo esgoto a cada dia mais, mas é sempre bastante estimulante uma reflexão, mesmo como ele nos apresentou, ele nos disse no começo que é uma reflexão ainda como work in progress, mas que já é bem refletida, já é bem meditada, e especialmente num contexto disfórico como esse, nós estamos agora aqui na nossa terra, sempre revigorante esses, um exercício de inteligência e de reflexão que nos mostra uma alegria do conhecimento, uma alegria de busca do saber, de construção de um saber. E acho que isso é muito inspirador para todo mundo aqui do nosso grupo. Desejamos sempre voltar a escutar você, como desejamos sempre voltar a ler a tua escrita.
Obrigado.
Oui. Obrigado.
Je peux ajouter une petite chose? Avant de me le lire, vous pouvez, je vous suggère, si effectivement vous avez du temps, à venir m'écouter dans pour une autre palestra.
Ah oui.
Le 14 septembre, ici à Mouspi, je pense, mais je ne connais pas le lieu, qui est organisé par le département de français. Et le titre de la conférence est cette fois-là « Sémiologie de la chaleur ».
De la chaleur. Ah, tu veux parler de la chaleur ?
Que j'appelle. C'est une incantation.
C'est 14.
Oui, 14.
À quelle heure ?
19h30.
Ah, 19h30, ok. Oui, 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 le soir. Oui, c'est ça.
Sémiologie de la chaleur.
Oui.
Chez Sémi Bajalina.